messieurs, bonjour, bienvenue à ce café des presses que nous avons le plaisir d'animer en ces 10e jour du mois de mars, l'an 2017, dans ce beau cadre de la salle de réunion du Centre de ressources pour enseignants de Kananga, ici à Kananga, chef lieu de la province du Kasaï Central. Nos discussions vont tourner autour de la sécurité avec comme sujet la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme dans les zones de conflit armés. Et sanglantes responsabilités et rôles des autorités sont associés à cette émission. Monsieur Milonga Milonga, Justin, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes vice-gouverneur faisant fonction du gouverneur en mission pour le compte de la province du Kasaï Central. Patrick Amissi Mukenechaï, journaliste et secrétaire provincial de l'Observatoire des médias congolais et francs au Kasaï Central. Albert Kyungu Mwepu, bonjour. Activiste de la société civile et secrétaire exécutif de développement du Kasaï Central. Vous êtes plusieurs dizaines à participer à ce débat. Nous vous disons également bonjour. Professionnels des médias, membres des organisations de la société civile et autorités locales, vous avez la possibilité de poser des questions aux panélistes qui sont avec nous sur ce plateau, compléter les réponses, voire répondre à nos questions, le tout dans la considération mutuelle et respect des droits humains. Robert Ngoï, Freddy Kataï assure la prise et la mise en onde sous une réalisation de Pierre Sosten Kambidji. Edouard Gilles, c'est mon nom. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Bienvenue à tous.
Oui, entrez. Allô, mademoiselle Danti, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Monsieur Lukusa, vous êtes cherché par la police.
La police?
Oui, monsieur Lukusa.
Oh, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec la police?
Monsieur le journaliste, vous êtes en état d'arrestation.
Arrestation? Pourquoi, commandant?
Je vous prie de garder silence parce que tout ce que vous allez dire risque d'être utilisé contre vous lors du procès.
Mais comment ça?
Mais qu'est-ce
que... Venez arrêter les gens comme ça, là!
Et à présent, remettez-moi le mémo.
Quel mémo, commandant?
Le mémo que le syndicaliste vous a remis.
Ah, mais c'est mon outil de travail, commandant. Hein, vous me trouvez là en train de faire mon travail. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. D'autant plus que vous n'avez aucun document.
Monsieur le commandant, au juste, c'est quoi?
Mais monsieur le commandant, vous êtes en face d'un journaliste en plein exercice de ses fonctions.
Voilà.
Donc, vous n'avez pas le droit de l'inquiéter, monsieur
le commandant. Vous n'avez pas le droit de l'inquiéter, monsieur le commandant. Vous n'avez pas le droit de m'inquiéter.
Écartez-vous, vous autres. Oh. C'est une affaire d'État, ça ne vous regarde pas. La décision vient de très haut.
Impossible.
Vous m'arrêtez, la décision vient de très haut.
Garde, emparez-vous de cet homme.
Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit, laissez-moi.
La prison n'enferme pas que les journalistes. Elle enferme aussi l'information. Changeons. Aux autorités politiques, de l'armée, de la police, des services de sécurité, aidons nos journalistes à bien faire leur travail.
Une production de la Fédération des radios de proximité du Congo.
Voilà, nous disons merci à la technique ainsi qu'à la réalisation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à cette émission. Nous l'avons dit, la province du Kasaï Central en général et la ville de Kananga, son chef lieu en particulier, connaissent une situation d'instabilité ponctuée des violents affrontements depuis août 2016. Ces violents affrontements opposent les forces de sécurité et des éléments se réclamant du chef coutumier Kamuina Nsapu, officiellement tué au mois d'août de l'année dernière. Cette situation ne facilite pas l'exercice de la profession d'informer et de recevoir les informations dans la province. Les points nous est ici fait par José Mbouyi, journaliste congolais et vend pour le compte de la radio-télévision chrétienne émettant de Kananga.
Les organisations de défense des droits de la presse, à l'instar des journalistes en danger et son partenaire Reporters sans frontières, ont dénoncé une tendance à inciter le journaliste à ne pas parler des affrontements qui opposent les forces de l'ordre et les présumés partisans du chef Kamuina Nsapu. Selon GED et RSF, le journaliste Sosten Kambidji de la radio-télévision chrétienne et André Kambala de la radio Okapi ont été directement menacés par les autorités qui n'apprécient guère leur manière de couvrir ces conflits. À l'opposé, Fabrice Nfouamba de la radio Moyo de Chimbulu et Berry Moulanda, correspondant dans la même ville de la radio Malandi, ont été menacés de mort par des éléments attribués au chef Kamuina Nsapu. Craignant pour leur vie, les deux professionnels des médias vivent désormais loin de leur famille. D'autres allégations ont fait état des pressions que certaines autorités auraient exercées sur le professionnel des médias directement ou à travers leurs responsables. Sur cette liste, citons Raphaël Tridon Kapuku Kamuzadi de Kassai Horizon et Jenny Tounsele de Canal 13. Dans les camps des défenseurs des droits de l'homme, la situation est peu reluisante. Le coordonnateur provincial de la Commission des droits de l'homme vit en dehors des Kananga après être entré en clandestinité car il se sentait menacé. Le péché de Tridon Toumba Kabeya est d'avoir dénoncé dans un rapport adressé aux autorités l'usage disproportionné de la force par les éléments des FRDC. Cette situation amène les journalistes soit à se résigner et les défenseurs des droits de l'homme à se taire devant des cas de violations avérées des droits de l'homme dans les deux camps. Des analystes politiques congolais estime que ces conflits violents et armés a eu pour origine, entre autres, une conjoncture des tensions sociopolitiques alimentées par un manque de dialogue entre les acteurs de la vie provinciale, des rivalités et intolérances liées au contrôle d'un territoire. Le média et la société civile disposent des atouts essentiels pour sensibiliser et motiver les populations sur des sujets d'intérêt général, tels que la sécurité, et c'est en raison de la crédibilité et de la confiance dont ils jouissent auprès notamment de l'opinion nationale et des autres structures sociales. De ces faits, ils méritent protection et sécurité.
Nous disons merci à José Bouy. Je rappelle qu'il est journaliste congolais et vrai pour le compte de la radio-télévision chrétienne émettant du Kananga. Monsieur Milonga Justin, je viens à vous. Vous êtes vice-gouverneur de la province du Kassai Central. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous faites fonction du gouverneur en mission. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque un tel tableau est dressé par rapport à l'exercice de la liberté de presse et les défenseurs des droits humains qui sont inquiétés là où vous dirigez? Qu'est-ce que vous ressentez?
Moi, je me ressens bien. C'est vrai que le sentiment pas de regret, mais au moins ce que je viens découvrir dans les différents mots qui ont été prononcés par les intervenants, que je remercie sincèrement et pour qui j'ai bien des gains parce qu'ils m'ont encore convaincu par le contenu de leur discours très riche et très intellectuel. Dire qu'il y a insécurité des journalistes dans cette province, ça c'est une information. Ni de loin, ni de près, depuis que l'exécutif provincial est là, c'est depuis le mois d'avril 2016, nous n'avons enregistré aucune plainte de journaliste, ni par écrit, ni par annonce téléphonique de l'insécurisation des journalistes. Ça, c'est une information. Je suis content que vous ayez porté cela à ma personne et ça m'arrange pour que nous puissions analyser tous. Parce que quand on dit qu'il y a insécurité, il faut qu'il y ait des preuves. Quand on dit qu'il y a insécurité, il faut qu'il y ait certains processus, soit judiciaire, soit, sécurité, qui ont été entamés pour arriver à l'atteinte de la sécurité des journalistes. En fait, ça, c'est une information. Je suis très content de recevoir ça.
Merci beaucoup. Je viens à vous, ami ici, Moukene Chaï Patrick. Vous êtes journaliste. Vous êtes également secrétaire de l'Observatoire des médias congolais. Là, vous venez de suivre le reportage réalisé par notre confrère José Mbouyi, mais vous suivez également ce que dit le vice-gouverneur, c'est que jamais les informations ne sont portées à la connaissance de l'autorité. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour dénoncer des cas pareils?
Je voudrais d'abord commencer par dire que les tableaux qui ont été faits à travers le reportage qu'on a écouté tout à l'heure, les tableaux relatant la situation du journaliste ou de la pratique de la profession de journaliste au Kassai Central, ces tableaux-là est très sombre. Déjà, dans les reportages qu'on a suivis, autant des journalistes dont la sécurité est menacée, des journalistes qui reçoivent des menaces de mort par texto, ainsi de suite. Ce qui fait dire qu'il devient très dangereux alors qu'il est pour les journalistes de pouvoir pratiquer leur profession en toute liberté dans notre province.
Qu'est-ce que nous faisons? Justement, mais que cela ne soit pas porté à la connaissance de l'autorité.
Qu'est-ce que nous faisons?
Comment vous justifiez
ça? Mais je pense que les deux intervenants de tout à l'heure, dans leur allocution, ils l'ont souligné. Il est vrai que la première responsabilité en termes de sécurité revient d'abord au journaliste lui-même. Ça, c'est vrai. Le journaliste doit se sécuriser à travers son professionnalisme. Lorsque un journaliste respecte toutes les règles, tout ce qui est prévu dans le cadre de l'exercice de sa profession, je pense que ce journaliste-là se met à l'abri de toutes sortes de menaces. Mais il arrive aussi des moments où ces journalistes-là, en pratiquant correctement de manière orthodoxe sa profession, soit l'objet de menaces des personnes qui cherchent par tous les moyens à pouvoir faire taire la vérité. Donc c'est là la réalité que nous sommes en train de vivre ici chez nous. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'OMEC? Mais nous continuons toujours à prodiguer des conseils parce que nous ne sommes pas un tribunal comme d'aucuns peuvent le penser, mais nous sommes juste un organe d'autorégulation. Nous faisons quoi? Nous sommes en train de recadrer parfois certains journalistes à travers des lettres que nous leur adressons, à travers des conseils que nous pouvons également leur prodiguer. Et moi, je pense qu'il est de notre devoir de continuer toujours à faire ce travail au quotidien.
Et par rapport à vos relations avec l'autorité, je reviens sur cette question parce que l'autorité dit qu'elle vient d'être informée en suivant ces reportages. Pourtant, ce sont des cas connus. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une rupture entre les médias, les défenseurs des droits de l'homme et l'autorité locale?
Rupture, je ne pense pas, mais je peux me rappeler qu'il y a plus d'une fois, il y a des alertes que nous faisons, même au niveau des GED aussi, même si moi je suis journaliste, pratiquant, c'est vrai, mais je n'appartiens pas à GED, mais je sais qu'au niveau des GED, au niveau d'autres organisations qui défendent les droits des journalistes, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait au quotidien. Il y a des alertes que nous faisons, il y a des dénonciations que nous faisons aussi par voie de presse. Moi, je pense que c'est déjà suffisant comme travail abattu au niveau de l'OMEC.
Merci beaucoup, Patrick Amissi Mukeneshaï. Je rappelle que vous êtes journaliste congolais, mais également secrétaire de l'Observatoire des médias congolais pour le compte du Kassai Central. Albert Kyungu Mwepouje, je viens à vous comme activiste des droits de l'homme. Quelle lecture vous faites par rapport à cette situation, surtout lorsque vous suivez le reportage rendu par notre confrère, les arguments ou bien la position de l'autorité, mais également les arguments avancés tout à l'heure par Patrick.
Merci, monsieur le journaliste, à entendre les propos du reportage. À la société civile, on trouve ça très partiel. Ça ne reflète pas la réalité souterrain. C'est le premier élément. Et à entendre l'autorité provinciale dire que c'est une information, ça m'inquiète un tout petit peu. On dit que l'autorité n'est pas informée de sa population, à la limite, les professionnels, les médias et les acteurs de la société civile sont menacés. Donc, je suppose que toutes les informations n'arrivent pas à l'autorité. Quand cela ne tient à la société civile, on voudrait rappeler à son excellence qu'après son élection, il est parti de façon clairement, il rentre devant la foule qui était venue l'ovationner, l'accueillir. Il a dit, je vais citer ses propos, nous sommes à l'heure de la compétition. Excellence, je pense que la compétition, c'est aussi en matière de violation des droits de l'homme.
La compétition entre les 26 provinces aujourd'hui, c'est aussi en matière de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et pour ne revenir que vers les cas des activistes des droits de l'homme, hormis M. Ntumba, qu'on a cité dans le reportage, j'ai plein de cas ici. Et l'autorité dit qu'il n'est pas informé. Tous ces mémos, tous ces cahiers de charges, toutes ces déclarations, moi-même personnellement, je viens d'adresser un courrier ce matin à son excellence, monsieur le gouverneur, avec un document à l'appui. En fait, Je ne le place pas là-bas. Je dis simplement que l'autorité serait un peu mieux renseignée et devrait donner un autre son de cloche au lieu de dire que c'est une information pour moi en termes de violation des droits de l'homme, des violations de la liberté de la presse. Donc, moi, je suis quelque peu inquiet. Voilà mon attitude.
Merci. Monsieur le gouverneur, je reviens à vous. Vous avez dit tout à l'heure, donc, bien que on comprend que c'est une des questions qui va nous amener à trouver un compromis, à déboucher sur une solution. Comme il a dit, on n'est pas à la barre. Mais on veut quand même savoir, selon vous, parce que le journaliste dit qu'ils font des alertes par geste et l'activiste de la société civile parle de mémo. Et pour vous, pour que vous soyez informé, vous pensez qu'on utilise quel mécanisme pour que vous soyez informé aussi?
Monsieur le journaliste, je pense que un intellectuel averti, quand on introduit un problème, on doit savoir que le développement va soit nous aider à confirmer ou à infirmer notre introduction. Moi, je serais quand même très inquiet de voir que je suis devant les communicateurs, mais qui introduisent et en train de se détruire pendant qu'ils sont en train de développer leur raisonnement. Comment voulez-vous que l'observateur dise que le tableau est très sombre? Dans notre temps, la société civile dit ça ne reflète aucune réalité sur terrain. Comment voulez-vous que je puisse vous donner encore une réponse? C'est pour dire que ça ne reflète aucune réalité sur terrain. Et c'est très clair. Je vais évoquer le cas, monsieur les journalistes. Vous me parlez de deux journalistes de Chimboul. Mais les deux journalistes de Chimboul, vous le dites bien, ce sont les miliciens qui sont en train de les menacer. Mais dans l'entretemps, ce sont ces miliciens que vous, dans vos médias, vous êtes en train d'encourager. Ça, c'est un. Et vous parlez du problème de M. Ntumba. Moi, c'est une information. Je ne connais même pas M. Ntumba. Je ne connais pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. Et s'il a un problème, il l'a dans quel sens? Il l'a avec qui? Ce n'est pas facile d'être informé de tout ça. Est-ce que l'on peut seulement, sur une multitude de journalistes dans cette province, évoquer un seul cas? Et même si l'on est trop sévère dans le jugement, je pense que s'il y a des enseignants, même si on est trop sévère dans la cotation, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire le tableau est très sombre. C'est là un instant, messieurs les journalistes. Je pense que nous devons être réalistes et logiques. Parce que sinon, le journalisme devient un instrument d'intoxique qu'un instrument d'éducation. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai aimé le discours de madame. Il dit que cette garantie doit d'abord être celle qui provient de soi-même. Mais quand elle dit que cette garantie est celle qui provient de soi-même, là, je ne suis pas journaliste, mais je suis un intellectuel, je dois m'informer et je lis. Et quand moi j'ai lu les codes d'ontologie et éthique du journaliste, vous allez trouver qu'à son article 5, je pense, le code congolais dit que le journaliste doit bannir la diffamation, la médisance, la calomnie, le mensonge, l'incitation à la haine, les accusations sans preuve et la déformation des faits. C'est ça la manière de bien se sécuriser soi-même. Mais qu'est-ce que l'on vit? Non, mais laissez-moi vous parler. Quand vous parlez, vous m'acculez avec autant de questions, je suis attentif et je vous écoute. Ah oui, laissez-moi arriver au bout de mon raisonnement.
Justement, vous avez la parole, monsieur le ministre.
Ah, ok, je vous laisse alors. Vous ne voulez pas que vous dise qu'on vous parle sincèrement. Mais c'est ça le mensonge que vous êtes en train de publier partout. Parce que moi, j'ai des cas à vous donner.
Justement, monsieur.
Oui, allez-y.
Vous avez la parole, mais je vais vous prier d'essayer de choisir les termes qu'il faut, surtout lorsque vous avez des.
À des grands mots. Non. Les termes ne sont pas durs.
S'il vous plaît, monsieur le ministre.
Monsieur le journaliste, je pense que je suis sincère avec moi.
S'il vous plaît, monsieur le vice-président, parce que lorsque vous dites par exemple que les journalistes encouragent les miliciens, est-ce que vous avez des capacités que vous connaissez? S'il vous plaît.
Écoute.
Lorsque vous dites que
écoute-moi.
Les journalistes de Chimboulou sont traqués par les miliciens, est-ce pour autant qu'ils ne doivent plus jouir de votre protection?
Non, mais je donne l'exemple parce que vous dites que l'autorité provinciale n'arrive pas à sécuriser. C'est pour ça que j'ai dit.
que parmi les trois cas que vous citez, il n'y a que le seul cas peut-être d'Ntumba. Là aussi, je ne sais pas de quoi il est question. Mais le cas des miliciens que vous citez, ça vous dites bien qu'ils sont traqués par des miliciens. Ça, ce sont des termes que j'ai entendus de chez vous.
Mais faites-vous en tant qu'autorité pour ces journalistes ?
Mais vous savez que le rôle d'une autorité, c'est de sécuriser l'homme, et c'est bien. Avez-vous appris que bien qu'ils sont traqués, ils sont venus vers le père et le père les a repoussés dans le feu ? Non.
Merci.
Merci.
On va revenir à vous. Monsieur Patrick, vous avez suivi les vice-gouverneurs. Vraiment, il dit que vous êtes en train de tous parler au nom de des activistes des droits de l'homme et des professionnels des médias, mais pour Albert Kung, votre tableau est partiel et ça donne de la matière au vice-gouverneur pour qu'ils disent que vous vous contredisez et qu'il n'y a rien de ce que vous dites.
Et il faut ici préciser que nous sommes en train d'intervenir sous des angles tout à fait différents. Moi, je ne me cramponne que sur ce qui concerne les journalistes. Alors que lui est global, il parle à la fois des activistes des droits de l'homme, il parle également des journalistes. Moi, je n'ai fait que parler des journalistes. Et M. le vice-gouverneur, tout à l'heure, a fait allusion aux seuls deux cas évoqués dans les deux allocutions qui ont été prononcées tout à l'heure. Mais dans la salle, je parle devant témoins, il y a moult journalistes dans cette salle ici qui sont l'objet des menaces chaque jour qui passe, des textos qu'on leur envoie, des part et d'autre, que ce soit du côté de ceux qui nous dirigent, que ce soit également de ceux-là qui sont en train d'être repoussés à l'instant par le pouvoir en place. Donc c'est pour vous dire que nous avons autant de cas, nous avons beaucoup de cas, mais qui ne sont peut-être pas documentés. Il y a des journalistes, la plupart des journalistes qui animent des émissions à caractère politique, des émissions de débat. Chaque jour qui passe, ils reçoivent des menaces de mort. Je ne vais pas citer les noms des gens. Ils sont dans cette salle ici. Il y en a d'autres qui ne sont même pas dans cette salle, mais qui font toujours l'objet des menaces. C'est pourquoi moi j'ai dit que le tableau est sombre. Et lorsque nous disons que le tableau est sombre, nous nous assumons en voulant dire que c'est pas seulement l'autorité établie qui soit considérée comme étant le bourreau de la presse au Kassai occidental. Il n'y a pas que l'autorité. Mais parce que l'autorité a, vous allez permettre la tautologie, l'autorité sur tout le monde, c'est à elle de pouvoir veiller à la sécurité des journalistes.
Merci. Voilà, Albert Kung, vous avez senti tout à l'heure que le fait pour vous d'avoir qualifié les tableaux dressés par Patrick Amissi des partiels, sans terminer, parce que vous avez dit quand même votre liste était longue. Le fait pour vous de n'avoir pas cité d'autres cas a fait que le vice-gouverneur dise que vous contredisiez. Tout en rappelant qu'on ne va pas se cantonner sur ces points-là pour aller vers les solutions, quel élément pouvez-vous ajouter à ce niveau de débat pour qu'on évolue ?
Alors, merci à Céline.
Contradiction, il n'y en a pas, mais plutôt complémentarité, et ça renforce les clous et la réalité têtue. Un animateur de l'ONG Diku Dilenga, fusillé à Kananga, un cas. Une ONG venait de me saisir qu'ils sont menacés par les hautes autorités, que leur véhicule est en train de transporter des miliciens. Je parle des choses pour lesquelles j'ai des évidences, et en tant que porte-parole de toutes ces masses des acteurs de la société civile, et j'assume. Et donc, que dit quand on parle de l'insécurité? C'est vrai, nous ne sommes pas là pour voir l'insécurité venant seulement d'un camp. Que son Excellence nous en excuse, quand nous parlons de l'insécurité ici, c'est tout ce qui menace notre quiétude, que ça vienne des forces régulières, que ça vienne des forces irrégulières, permettez. Donc, pour nous, ça nous inquiète. Et dans tous les cas, nous attendons de l'autorité notre sécurisation. Et ça n'appelle pas débat. Il a été investi de l'autorité pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tant que c'est troublé, nous continuerons à les lui réclamer. Et ça, nous les disons avec toute inquiétude, puisque l'autorité devrait plutôt aller dans le sens de nous assurer tous, nous assurer que tout est mis en place. Donc quand il y a autant de cas comme ça, nous souhaitons que l'autorité nous rassure. Et nous-mêmes, nous y travaillons aussi.
Merci beaucoup. Avant de poursuivre, c'est une question aussi des complices qui sont du côté de la sélection auprès. Avant de redonner la parole au vice-gouverneur, qui n'apprécie pas du tout, il est allé même jusqu'à évoquer certaines dispositions de ce que les journalistes considèrent comme leur Bible. Donc, on peut comprendre que l'exécutif provincial n'apprécie pas du tout la manière de presser les professionnels des médias. Et d'ailleurs, le gouverneur titulaire l'avait dit récemment.
suivre cet élément avant de continuer cette émission.
C'est exact que la semaine dernière, il y a eu des attaques de nos positions mixtes à Timbulu. J'ai vu que certains journalistes exagéraient dans les chiffres qu'ils avançaient. On parlait de 100 morts, non, c'est pas exact. C'est de loin, de très loin inférieur à cela. Le calme est revenu, même s'il est précaire, mais il est là, le calme est là. Nous essayons de ramener tous les enfants de cette province à pouvoir s'entendre, abandonner la guerre, si on peut l'appeler ainsi, et à retravailler pour le développement de la province.
Merci beaucoup, distingués invités. Si nous avons fait appel à ce morceau, ce n'est pas pour émettre les débats par rapport à ça, mais plutôt, monsieur le vice-président, c'est pour venir à vous. Patrick l'avait déjà dit ici, que Dieu même redit en disant l'autorité a l'autorité sur tout. Par rapport à ces tableaux, est-ce pour autant que l'exécutif provincial va abandonner les journalistes à leur propre?
Merci, merci beaucoup Edouard. J'aime bien quand tu poses des questions avec beaucoup plus d'intelligence et sagesse, mais par moments je les déteste quand elles ne sont posées qu'avec intelligence et sans sagesse. En fait, je voudrais que vous arriviez à comprendre que vous continuez à vous contredire, ce qui montre que vos accusations sont fausses. Un instant, monsieur le journaliste. Notre frère de l'Observatoire dit beaucoup de cas, mais non documentés. C'est grave pour un intellectuel. Beaucoup de cas, mais non documentés. Ça ne me vient pas de moi.
Nous pouvons évoluer, monsieur le
ministre. Oui, mais comment on va évoluer si on ne sait pas démarrer?
Est-ce pour autant, on a déjà tout dit?
Oui. Je vais vous donner un cas. On parle des menaces des textos. Moi-même, monsieur le vice-gouverneur, je suis. Mes téléphones se plaignent, surtout avec cette histoire de recherche de paix. Les miliciens, tout comme ceux qui peuvent vouloir me régler les comptes, ils me menacent chaque jour. Il y a d'ailleurs parmi vous les journalistes qui m'ont envoyé des menaces. J'en vois dans la salle. Ils sont nombreux. C'est pour dire qu'un milicien reste un milicien, il s'attaque à tout le monde. Mais quand vous dites que l'autorité suit tout le monde. Mais je voudrais aussi vous dire que l'autorité n'est pas un astre spirituel. L'autorité, c'est un homme. L'autorité n'a pas mille yeux, mais l'autorité n'a pas mille sens pour s'enquérir de ce qui se passe, mais l'autorité attend de ses sujets les informations, le renseignement de ce qui se passe, pour qu'ils prennent des dispositions. J'ai posé à M. Kambidi, quand on a quitté Nganza, nous sommes allés à Malolé. Et là, à Malolé, les balles crépitaient. Déjà, en Nganza, il y avait des balles que les miliciens étaient en train de faire crépiter sur nous, imaginez-vous. Quand nous arrivons à Malolé, là, c'était pire. Alors, pendant que Kambidi voulait fuir pour rentrer dans le local, moi, j'ai dit, mais tu vas où, monsieur, parce que tu dois compter le nombre de cadavres. Et tous ont fouillé, tous ont se couché. Mais qui... J'ai posé la question à Kambidi après, il y a combien de morts? Il ne m'a pas répondu. Et pendant que nous allons déposer les sœurs au Tabor, une des radios communique et dit, deux religieuses sont décédées. Nous avons posé la question avec la Monisco, où sont ces deux religieuses-là qui sont décédées? Voilà un peu pour vous dire que malgré ce que... Parce que s'il était resté au niveau des rumeurs, il dirait que les autorités provinciales sont en train de me poursuivre. Aucun problème.
Merci. Et par rapport à ce que vous pensez qu'on puisse faire pour que les journalistes vous servent, sinon, si on tient compte de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne pas les médias, on peut voir que vous n'en avez pas besoin.
Oh oui.
Si vous en avez besoin, qu'est-ce que vous attendez des médias?
Je sais que je fais partie de la population qui a besoin de médias, mais... Dans tous les cas, il y a des exceptions. Et j'ai fait mon exception sur base de la vérité. Moi, je ne suis pas un monsieur qui accepte de n'importe quoi et qui vit dans le mensonge. C'est quelque chose que j'ai eu depuis ma jeunesse. Alors, si les journalistes veulent qu'aujourd'hui, moi, je commence à suivre leurs médias locaux, mais il faut éviter la diffamation.
Il faut éviter la médisance. Moi, je ne sais pas, madame, je ne sais pas si c'est ça le travail que vos médias à Kinshasa font chaque jour, d'injurier les autorités, de médire aucun message d'encouragement et de sensibilisation à la population. La médisance, la calomnie, le mensonge, l'incitation à la haine. En fait, le respect de votre code déontologique.
Merci beaucoup, voilà. Monsieur le ministre, je viens vers vous. Vous avez suivi le ministre qui dit que bien que vous écriez beaucoup de cas, vous ne les avez pas documentés. Est-ce que vous avez certaines difficultés qui ne vous permettent pas de documenter les cas pour les porter à...
C'est évident, monsieur Edouard, c'est très évident. Nous avons toujours des barrières pour rencontrer les autorités. Vous savez que la plus grande difficulté ici, chez nous, au Kinshasa central, dans l'exercice de la profession du journalisme, la plus grande difficulté, c'est l'accès difficile aux sources. Vous savez, par exemple, que pour rencontrer les autorités ici, vous pouvez chercher à rencontrer le gouverneur aujourd'hui, mais peut-être que après un mois, il nous préfère, vous ne le verrez jamais. Voilà, on connaît toujours ces problèmes-là. C'est une grande difficulté, un grand obstacle dans les...
Et là, vous croisez les bras.
Bon, mais si vous avez toujours l'habitude, vous êtes au sein d'une famille, un enfant, devant son père, chaque fois vous demandez, chaque fois vous demandez, les papas ne réagissent pas. Allez, vous continuez toujours à demander.
Mais l'autorité dit également que vous priez. Non, mais moi je pense que dans les délits de presse, il y a beaucoup de déviations. C'est ça qui fait que
non, je sais qu'un journaliste responsable, c'est celui qui pratique sa profession dans le respect strict de tous les règlements, de toutes les règles qui régissent cette profession. Un journaliste responsable, il sait qu'il y a des mécanismes de rectification, par exemple, d'une information erronée qui a été donnée. Les autorités le savent aussi. Combien de fois, ici chez nous, au Kinshasa central, avons-nous déjà suivi, par exemple, dans le traitement du dossier brûlant d'erreur, combien de fois avons-nous déjà entendu une autorité du gouvernement provincial venir donner un démenti? Combien de fois? Depuis que cette situation a commencé au mois d'août, ça fait jour. Souvent, on nous accuse parfois faussement. Lorsqu'on donne les bilans, et on dit lui qui pratique sa profession dans le respect strict de tous les règlements, de toutes les règles qui régissent cette profession. Un journaliste responsable, il sait qu'il y a des mécanismes de rectification, par exemple, d'une information erronée qui a été donnée. Les autorités le savent aussi. Combien de fois, ici chez nous, au Kinshasa central, avons-nous déjà suivi, par exemple, dans le traitement du dossier brûlant d'erreur, combien de fois avons-nous déjà entendu une autorité du gouvernement provincial venir donner un démenti? Combien de fois? Depuis que cette situation a commencé au mois d'août, ça fait jour. Souvent, on nous accuse parfois faussement. Lorsqu'on donne les bilans et on cherche à voir les sons des cloches de la version officielle, bon, souvent, on n'a pas.
Voilà.
Nous nous appelons, c'est déjà pour répondre, peut-être réagir. À l'intervention tout à l'heure, c'est l'élément que nous avons tous ensemble suivi, celui de Mabla. Quand nous disons, nous ne recevons par exemple l'information des sources indépendantes, ils nous disent par exemple, à tel endroit, il y aurait eu autant de morts. Mais nous cherchons à avoir la version officielle, jamais nous l'avons. Jamais nous avons suivi par exemple les porte-parole du gouvernement venir nous dire par exemple, contrairement à ce qui a été annoncé, voilà la vraie version. Jamais on nous donne cette chose.
Voilà, et parce que nous voulons valider le terrain pour un nouveau débat. La même question que nous avons posée au vice-gouverneur, à quelles conditions vous pensez collaborer étroitement avec l'exécutif? Parce que vous avez aussi besoin d'une information équilibrée, quand ça manque les sons officiels, c'est un problème.
Moi, je pense que l'autorité doit briser toutes les barrières qui mènent à peine. Lorsque nous avons besoin d'autorité, c'est mieux que l'autorité puisse trouver des solutions.
Merci. Alors, pour nous, avant de prendre les réactions dans la salle, est-ce qu'il est possible, dans les contextes actuels, qu'il y ait vraiment une collaboration étroite entre acteurs et activistes du droit de l'homme, professionnels de médias, surtout quand on sait que les travaux vont plus dans le sens de dénoncer ce que vous pensez qui n'est pas très bien fait par les autorités. Est-ce qu'il est possible d'établir vraiment un pont entre les médias?
Les ponts s'imposent. Et nous devons tout faire pour établir ce pont, cette collaboration entre l'autorité et les acteurs de la société publique. Tenez, peut-être on communique difficilement. Peut-être on ne se connaît pas. Si on sait que l'autorité a la qualité des personnes l'air bien, commission, on sait que les ONG ne cherchent que le respect, la protection de vulnérables, on pouvait bien marcher main dans la main. Aujourd'hui, on s'en prend à l'autorité, puisque c'est lui qui est investi. Quand on voit les misérables, les pauvres qui sont menacés, c'est comme ça qu'on va faire lui réclamer. Donc, le pont s'impose. Et aujourd'hui, il a. Reste aujourd'hui de l'autorité. Demain, dès qu'il est menacé, il reviendra vers les ONG des droits d'homme pour demander protection. Donc, juste sur base de ça,
Et cette collaboration s'impose. Nous venons vers lui, puisque c'est lui qui doit fournir la protection des personnes et de leurs biens. Et la population est bénéficiaire. Il est fournisseur de la sécurité. Nous reviendrons vers lui tant qu'il est autorisé. Donc, merci. Les fonds s'imposent.
Merci beaucoup. Avant de prendre les conclusions de cette émission, nous allons tourner du côté des amis qui sont en train de suivre cette émission. On va prendre quatre réactions. Deux messieurs, deux dames dans la salle. On va donner la parole à un journaliste. Oui, je rappelle que c'est dans la considération mutuelle dans le respect des droits humains. Donc, nous allons rester dans le sujet. On va prendre un journaliste et un activiste des droits de l'homme. Si on prend un activiste des droits de l'homme ici, on va prendre un journaliste de l'autre côté. Donc vous donnez la parole, le micro à monsieur. Vous vous présentez.
Le Français des droits humains.
S'il vous plaît, vous allez préciser aussi à qui vous posez votre question. Si c'est une contribution, vous dites que c'est une contribution.
C'est pour renchérir la difficulté que l'autorité est en train d'évoquer par rapport à la communication. Il existe dans le mandat des défenseurs des droits de l'homme que lorsqu'il y a l'affrontement, les défenseurs des droits de l'homme doivent aller savoir à quel niveau la société a été affectée. Il existe aussi dans le mandat des défenseurs des droits de l'homme de faire la surveillance des détentions. Il est vrai que Son Excellence dit qu'il est, je ne sais pas, insuffisamment informé, mais du moins l'autorité connaît que, en prison par exemple, il y a ceux qui sont arrêtés. L'autorité aussi a la connaissance que dans les cachots, où on est en train de traiter les dossiers de cette insécurité au P2, puisqu'il n'y a pas quelque chose à cacher là-dessus, il y en a qui sont détenus au-delà des délais prévus de détention par rapport aux OPJ, puisque les OPJ, on les reconnaît, la privation de la liberté pendant 48 heures. Je pense que l'autorité doit connaître que au PD, on est en train de traiter des dossiers là-dedans, en commission, et cela dépasse même le délai prévu par la loi. Le problème, c'est que je voudrais citer pour dire que chaque fois que les défenseurs des droits de l'homme descendent dans les lieux où il y a eu les affrontements, ils rencontrent des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? C'est d'être fiché. Qui est parti? Qu'est-ce qu'il veut connaître? Pourquoi il veut connaître? Je me pose la question de savoir, faudra-t-il aller dire cela auprès de l'autorité? Puisque ceux qui commettent ce que nous croyons être exaction, ceux qui commettent les violations des droits de l'homme, en assurent aussi la sécurité pour que ça ne soit pas connu. Voilà, donc c'est une grande difficulté que nous ne pouvons pas aller dire à l'autorité.
Ma préoccupation est la suivante, Excellence. Aujourd'hui, vous venez de déclarer que vous ne suivez pas nos radios. Moi, personnellement, je vous suis sur Radio Capi, invité du jour avec des consoeurs de là. Je voudrais juste savoir, est-ce un mépris à l'endroit de votre propre presse? Puisque si les journalistes disaient aussi, nous, on ne s'intéresse pas à nos autorités d'ici, il y a quoi là? Alors, moi je comprends que le problème qui est en face de nous, c'est un problème de communication. Je voudrais paraphraser ou bien m'inscrire dans la logique de Patrick Divine. Je suis journaliste, loin de moi de me faire professeur à la faculté des communications ici, mais on m'apprend que c'est une illustration qui passe par ma tête. À Chimbulu, il y aurait 90 morts, voilà. Je passe au micro, je prends mon téléphone, j'appelle le responsable, je passe par le FARDC, par exemple, on me dit non, celui qui est attitré pour donner les bilans, c'est l'autorité provinciale. Et je puise tous les moyens pour avoir le deuxième son des cloches, la version officielle. On ne me donne pas cette occasion-là. Monsieur le gouverneur, je ne suis pas tenu de taire cette information-là. Et ma déontologie me le permet.
Je pose la question à Son Excellence. Si il peut nous donner la procédure exacte pour faire parvenir les cas de violation de droits de journalistes. C'est par texto, des droits de l'homme aussi. C'est par texto pour qu'ils soient informés en temps réel ou bien il y a une procédure. Puisque là, c'est comme s'il ne sait pas par où commencer pour avoir ces informations. Et je demande aussi à Patrick. Je sens que dans le média, il y a beaucoup d'organes. Il y a le CESAC, il y a l'UNPC, il y a le GED, il y a l'OMEC. Je me dis, c'est quel organe qui a aussi le pouvoir de prendre toutes ces violations et amener auprès de l'autorité? Merci.
Mais qu'il relève la diffamation, la malformation de l'information. Comment il peut qualifier ça de diffamation parce que lui-même n'a pas suivi ou il s'en tient aussi au colportage? Et là, je ne comprends rien. Un deuxième aspect que je voulais soulever, parce que les journalistes se plaignent qu'il y a toujours des barrières pour rencontrer l'autorité, pour avoir un deuxième son. Mais dans l'éthique et dans les codes d'éthique et d'ontologie, on demande aussi aux journalistes de se limiter au fait quand tu n'as pas eu les sons des cloches, ça et là, tu te limites aussi à présenter les faits comme tu l'as vécu. Donc, je pense que ces difficultés-là amènent les autorités à disqualifier les journalistes sans raison.
Merci beaucoup. Est-ce que faudrait plus bientôt vous demander de résumer tout ça en nous disant quelles sont les garanties que vous pouvez offrir aux professionnels des médias, aux activistes des droits de l'homme par rapport à leur sécurité, toutes les fois qu'ils viendront vers vous et pour avoir de l'information? Voilà.
Monsieur les journalistes, avant de donner les garanties, laisse-moi m'occuper d'abord des inquiétudes des journalistes. Quand les journalistes disent qu'ils ont difficile à rencontrer les autorités, moi je ne sais pas. Ce même journal... Je commence par toi. Quand est-ce que tu as eu difficile à me rencontrer? Tu appelles quand tu veux. Et quand je sens que tu as fait longtemps sans m'appeler, moi je t'appelle. Je ne suis pas autorité. Oui. Ah non, mais je donne un exemple. Lui n'est pas journaliste. Il n'est pas le droit de l'homme. Je donne l'exemple. Tous les journalistes qui veulent nous rencontrer, rencontrer l'autorité, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut se dire, quand c'est une audience officielle, l'autorité peut avoir autant de charges. C'est comme aujourd'hui. J'ai même annulé un déplacement. J'ai fait pour que je trouve l'espace afin de venir. À ce moment-là, quand vous voulez quelque chose de très officiel, passez par le protocole. Sauf si le protocole vous empêche. Alors, si vous trouvez qu'il y a un empêchement, la voie la plus simple, faites un texto. Je réponds à tous les textos. Sauf que par moment, je réponds avec retard. Quand vous dites que non, on ne sait pas, les ministres... Je veux vous dire une chose, s'il vous plaît, mais soyons sérieux avec nous-mêmes. Mais quand vous dites que l'autorité ne communique pas, on ne dit pas, on ne fréquente pas vos médias, mais les journalistes, les ministres que nous envoyons pour éclairer sur tel ou tel autre cas, ils passent par quel média? Ils passent par Okapi? Ce sont les médias ici. Moi j'ai un problème, je vous ai dit, ma nature ne tolère pas le mensonge, la médisance et les critiques. Ça, c'est pas ma nature. Jamais, depuis que je suis avec vous sur cette ville, vous m'avez entendu critiquer quelqu'un. Jamais. Peut-être que je mourrai sans faire cela. Je n'ai que de fleurs à jeter aux autres. Alors, comme le temps que je vous ai écouté, vous n'avez que ça comme spécialité. Je n'en veux plus. Mais je suis informé par ceux-là qui écoutent et qui me le disent. Pourquoi? Parce que peut-être quand ils me connaissent, ils peuvent me le dire avec un peu de toilette. Moi, je donne les cours de communication. Je fais un exercice de communication. Depuis que j'ai commencé à donner ce cours-là, aucun étudiant n'a jamais réussi à ce test-là. J'ai dit à quelqu'un, s'il y en a d'autres étudiants avec qui j'ai fait cet exercice, ils le savent. Je chuchote à l'oreille de quelqu'un.
Kambidi, c'est un menteur.
Je lui ai dit, Kambidi, c'est un menteur. Lui, il va chuchoter à la deuxième personne, troisième, quatrième, arrivé déjà même à la troisième personne, l'information est déformée. Il risque de lui dire,
Non, le vice-gouverneur a dit qu'il ne t'aime pas, c'est même pour ça qu'il te taxe. C'est que l'information est défaite. Moi, je connais le secret de l'information, de la communication. Et je sais toiletter. Quand on me donne une communication, une information, je ne la considère pas au départ comme un renseignement. Parce qu'il y a la différence entre le renseignement et l'information. Si vous pensez que les dames qui sont plus loin d'ici, ceux qui sont ailleurs, peuvent nous joindre facilement et donner la précision, vous pensez que vous, avec qui nous nous cognons dans des avenues, dans des rues, vous ne puissiez pas nous atteindre pour ou nous joindre pour l'information. La garantie est là. À tout moment, appelez. Nous prenons même les numéros inconnus.
Merci beaucoup.
Merci.
Patrick Devine, c'était une seule question qui était adressée. De savoir, vous avez laissé ça à l'UNPC, le mec que j'ai. Où est-ce qu'on doit finalement toquer en cas de problème, parce qu'on dénote aussi certaines déviations?
Il faut d'abord commencer par rappeler le caractère et le travail de chaque organe cité. L'UNPC, c'est le cadre fédérateur de tous les journalistes de la RDC. Tandis que le CESAC, c'est l'organe de régulation des médias. Et l'OMEC, c'est l'organe d'autorégulation des journalistes. Donc, pour chaque cas spécifique, moi je pense que chaque organe doit trouver une interface au niveau du pouvoir public, pour pouvoir adresser son rapport ou adresser un quelconque cas de violation des droits des journalistes.
Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous remercions tous les amis qui sont intervenus, mais on va prendre un dernier tour de micro pour devoir terminer avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Monsieur le vice-gouverneur, j'aurais bien voulu commencer par vous, parce que nous avons besoin des orientations pour que la population ait droit à l'information, des orientations pour qu'il y ait une bonne communication entre activistes de droits de l'homme et les autorités, et des orientations également pour les garanties sécuritaires. En guise de conclusion, s'il peut nous aider dans 2 minutes, monsieur le vice-gouverneur, pour que vous retenez par rapport à ça.
Ce que vous devez retenir, c'est que l'exécutif provincial à tous les niveaux est appelé à vous accompagner parce que vous jouez un rôle capital, un rôle très important, celui d'informer, d'éduquer et de former notre population. Et pour cela, l'autorité provinciale s'engage, comme toujours, à vous sécuriser. Quand vous avez la difficulté de nous rencontrer, utilisez toutes les voies qu'il faut, qui sont les voies de détermination et de courage pour nous atteindre. Parce qu'en principe, vous savez, vous êtes tous chrétiens. Les gens qui amenaient le paralytique, ils ont senti que c'était difficile d'atteindre là où était Jésus parce que la foule les empêchait. Mais ils ont trouvé des voies et moyens pour atteindre. Voilà ce qu'il vous faut, c'est la détermination et le courage. Du reste, nous sommes disposés à vous accompagner, mais dans la vérité, et au respect de votre code déontologique. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Guillaume Aminona Justin. Je rappelle que vous êtes vice-gouverneur et président en fonction du gouverneur de la province du Cap-Vert-Central. Patrick Amissi, Moukéricha, et votre conclusion.
Ma conclusion, c'est juste une recommandation que je vais peut-être formuler à l'endroit de l'autorité, qui doit arriver à mettre fin à l'impunité de tous les auteurs de violations des droits des journalistes. Et en plus de cela, on voudrait également demander à l'autorité de pouvoir communiquer suffisamment chaque fois qu'il y a des cas qui intéressent la communauté entière. C'est là ma conclusion.
Merci beaucoup, journaliste congolais et secrétaire de l'Observatoire des médias congolais pour la province du Cap-Vert-Central. Alors, puis on vous remercie, c'est avec vous que nous allons continuer.
Merci bien. La situation que nous déplorons aujourd'hui est exacerbée par l'insécurité persistante sur la ville et sur l'ensemble de la province. Ce que nous demandons à l'autorité pour l'instant, c'est d'accélérer. On sait qu'il sait pas, qu'il travaille, mais d'accélérer vraiment son travail pour ramener la paix, pour ramener la quiétude, qui est en fait les détonateurs de ces violations que nous déplorons aujourd'hui. Si on a la paix, si on a la sécurité, peut-être certains cas seront résolus. Notre vœu, c'est qu'on aille vite vers la paix, vers la pacification de la région. Voilà.
Ainsi prend fin cette émission sur...
Métier de journaliste et défenseur du droit.
C'est l'homme dans la zone de conflit armé et sanglant. Responsabilité des autorités. Cette émission a reçu pour vous une cinquantaine d'activistes des droits de l'homme et professionnels des médias dans ce cadre de la salle de ressources pour enseignants. Et nous avons reçu comme invité M. Justin Milonga Milonga, vice-gouverneur faisant fonction du gouverneur de la province du Kasaï central en mission, Albert Kyungu Mwepu, activiste des droits de l'homme et secrétaire exécutif du conseil régional des ONG du développement du Kasaï occidental de Mambré, mais également Patrick Amissi Mukeneshaï, journaliste congolais, mais également secrétaire de l'Observatoire des médias congolais. Nous étions aidés techniquement par Robert Ngoui, assisté de Freddy Kataï. La réalisation était l'œuvre de Pierre Sosten Kambidi. Je suis Edouard Djili qui a eu le privilège de vous présenter cette émission. Merci.
Achetez les journaux. Achetez. Papa, maman, les jeunes et les enfants, apprenez à lire la presse. Venez acheter. Tous les journaux parus ce matin ne parlent que de ça.
De quoi?
Oui. Vous ne savez
de
pas?
Quoi?
Non,
qu'est-ce
qui se
passe? Hindi.
Tous les journaux parus ce matin ne parlent que de la défense de la liberté de la presse.
La défense de la liberté de la presse.
Mais oui, les journalistes et les professionnels des médias appellent les autorités et le peuple à mettre fin aux atteintes de la liberté de la presse.
Donc il y a atteinte de la liberté de la presse dans ces pays.
Effectivement, il y a atteinte de la liberté de la presse. Venez voir, venez, venez madame, lisez là-bas, lisez.
Il y a 5 journalistes incarcérés à Matadi.
Ah, regardez là-bas, 2 journalistes agressés et torturés à Kinshasa.
3 journalistes menacés à Mbujimayi.
Ah, interruption de 4 chaînes privées mettant à Lubumbashi.
Mais c'est horrible ça. Ah. Un journaliste menacé et harcelé à Mbandaka.
Lisez là-bas. 2 journalistes tués à Goma.
Oh.
Mais pourquoi tant d'atteinte à la liberté de la presse?
Alors que les journalistes et la sentinelle, ou mieux, les surveillants de la société.
Le chien de garde de la démocratie.
Les journalistes sont victimes d'une justice sommaire.
C'est-à-dire
tout détenteur d'une parcelle de pouvoir politique, économique ou militaire sera en justice lorsque les journalistes disent des choses qui ne les plaisent pas. Et les droits appellent cela le délit de la presse, mon vieux.
Mais petit, la pénalisation du délit de la presse vient de la loi de 1996. Cette loi qui avait fait l'apologie de la répression arbitraire. Écoutez, nous devons l'adapter aux réalités démocratiques du moment pour un Congo juste. Car il n'y a que la justice qui élève une nation.
Papa, il ne saurait s'y avoir des démocraties véritables en RDC sans un contre-pouvoir critique.
Critique.
Vigilant.
Clairvoyant.
Et performant qui représente les pouvoirs des médias.
Quatrième pouvoir.
Mais où trouver une autre loi?
Mais il y a déjà sur la table du Parlement des propositions de loi.
Lesquelles?
Première proposition, sur le droit à l'accès à l'information. Oui. Deuxième proposition, sur la liberté de la presse. Mmh. Alors, nous devons demander aux législateurs d'adopter ces propositions de loi dans les meilleurs délais et à la présidence de la République de les promulguer pour une liberté de presse effective au Congo démocratique.
Demandons aux législateurs d'adopter ces propositions de loi et à la présidence de la République de les promulguer pour une liberté de la presse effective au Congo démocratique.
Une production de la Fédération des radios de proximité du Congo.